C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud.
C'est l'info épisode 10. Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Au sommaire cette semaine, la Catalogne. Vendredi dernier, le Parlement a voté l'indépendance de la région. Madrid a répliqué dans la foulée en plaçant la Catalogne sous sa tutelle et en destituant l'exécutif catalan, Carles Puigdemont inclus. Les choses se compliquent donc en Espagne. Franck Payanav, notre envoyé spécial, s'est rendu une nouvelle fois à Barcelone, sur le terrain. Et puis nous serons avec l'historien spécialiste de l'Espagne, Christophe Barré, pour analyser cette situation. Un nouveau titre de leader, jusqu'ici réservé à Mao, un très proche placé à la tête de Shanghai, un complot déjoué, Xi Jinping, le président chinois, ne perd pas de temps pour renforcer son influence au sommet de la deuxième puissance économique mondiale, à l'orée de son deuxième mandat. Et à cette occasion, François Bougon est notre invité, il travaille au service international du journal Le Monde et publie dans la tête de Xi Jinping chez Actes Sud. Le Canada et le Royaume-Uni ont relevé leur taux directeur de manière tout à fait inattendue ces derniers jours. Ainsi, pour la première fois depuis l'été 2007, la Banque d'Angleterre a décidé d'augmenter son taux directeur de 25 points de base. Nous revenons sur ce fait avec Mickey Monstre. C'est l'info épisode numéro 10, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble pour une heure d'actualité décryptée. Le duplex nous emmène cette semaine à Barcelone où les choses bougent. Semaine après semaine, Franck Payanav, notre envoyé spécial, suit la situation pour C'est l'info. Bonjour Franck.
Bona tarda Martin, bona tarda a tots.
18h37 en ce jeudi 2 novembre, donc heure à laquelle nous enregistrons ce duplex. Que s'est-il réellement passé aujourd'hui Franck?
Ben, ça a été une journée très très forte, surtout en mobilisation. Déjà ce midi, plusieurs milliers d'indépendantistes catalans étaient réunis devant le palais de la Généralité à Barcelone. Et on a bien sûr d'autres rassemblements qui sont prévus ce jeudi soir dans les grandes villes, devant les mairies. Et puis juste là où je me trouve, vous l'entendez peut-être derrière moi, devant le Parlement de Catalogne, après une journée assez riche en émotions, mais je pense que c'est votre prochaine question et on va en parler.
Oui, alors on parle beaucoup effectivement de Carles Puigdemont. Que s'est-il donc réellement passé pour lui?
Mais pour simplifier, Carles Puigdemont était convoqué aujourd'hui devant l'audience nationale, c'est la plus haute juridiction espagnole, pour justifier de ses actes. Il ne s'est pas présenté. Il est encore actuellement, à l'heure où on se parle, toujours en Belgique. Et donc la justice espagnol a décidé de demander un mandat d'arrêt européen contre le président de la Catalogne. Après, il y avait d'autres conseillers à lui qui étaient présents aujourd'hui à Madrid, surtout des anciens ministres. 8 d'entre eux ont été mis en examen et passeront leur nuit en prison ce jeudi soir dans plusieurs prisons disséminées dans la province de Madrid. Ils sont notamment craints de au risque de réitération, de destruction de preuves, ainsi que de risque de fuite, comme l'a fait Carles Puigdemont. Après, il reste maintenant à savoir ce qu'il va se passer pour eux. D'autres parlementaires devaient être entendus au tribunal suprême. Cette audience a été reportée d'une semaine. Elle aura donc lieu jeudi prochain. Et puis, pour terminer, une petite information dont on a peut-être un peu moins parlé en France. C'est la mairie de Barcelone aujourd'hui qui était réunie en conseil municipal. Elle a voté simplement la reconnaissance de légitimité du gouvernement de Carles Puigdemont. Donc, ce qui montre une journée très riche ici en Catalogne. Et la journée, donc, comme je vous le disais, n'est pas terminée avec les rassemblements qui sont prévus ce soir.
Très, très riche en rebondissements. En effet, quid de la mobilisation, Franck?
Alors la mobilisation, on pourrait peut-être parler un peu d'essoufflement, parce que c'est les premières mobilisations depuis plus d'une semaine. Ici en Catalogne, il y avait une place quasiment remplie ce midi. Et ce soir, même si on est en train d'enregistrer ce duplex et que on est quasiment sur le début du rassemblement, il y a quand même du monde, mais vous l'entendez peut-être derrière moi, il y a beaucoup de slogans,
oui, drapeaux,
et même j'ai même pu récupérer un petit cadeau pour vous, Martin, qui est dans ma poche. J'attends de le sortir. C'est ce drapeau Democracia avec la tête d'une personne qui a la bouche, qui ne peut pas parler, avec un ruban rouge dans la bouche. Et donc c'est une des marques ici en Catalogne que l'on voit fleurir sur beaucoup de d'appartements, de maisons, donc en Catalogne. De là parler d'une faiblesse de la ferveur, on pourrait, car en effet c'est extrêmement calme, mais avec les rebondissements de ces dernières 24 heures, on peut imaginer une nouvelle respiration peut-être pour la mobilisation indépendantiste ici en Catalogne.
Ah bah c'est gentil en tout cas, Franck, pour ce cadeau. Mais néanmoins, l'ambiance générale est-elle bon enfant, ou on sent vraiment que la situation est en train de se tendre à Barcelone?
On peut dire peut-être que certaines personnes regardent désormais vers Madrid avec l'ouverture de cette possibilité de voter le 21 décembre pour de nouvelles élections qu'a convoqué Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol. Après, de là parler de tension, on a toujours les mêmes scènes, hein, les mêmes scènes que je vous décrivais la semaine dernière. C'est des pas plus ou moins houleux devant le palais de la Généralité entre indépendantistes et anti-indépendantistes. Après, on verra, comme je vous dis encore, hein, c'est une de mes phrases préférées, on verra au fur et à mesure du temps. Mais la prochaine date clé à retenir, ça sera surtout le 21 décembre et ces élections convoquées par Mariano Rajoy.
Merci beaucoup, Franck Payanav. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Barcelone et vous suivez donc de très très près la situation pour nous. Et puis, on peut retrouver également la vidéo de ce duplex sur le www.c-l'info.fr.
Merci, Martin. Adao.
Le duplex.
Et nous sommes à présent avec Christophe Barré, historien essayiste, hein, je le rappelle, auteur de Podemos pour une autre Europe, paru aux éditions du Cerf. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, rapide chronologie avant de parler donc de ce qu'il se passe réellement en Catalogne. Depuis le référendum du 1er octobre, où le oui à la sécession a recueilli 90% des voix dans les bureaux de vote ouvert. Beaucoup d'encre a coulé en Espagne après la déclaration du roi Felipe VI datée du 3 octobre dénonçant l'attitude irresponsable des dirigeants catalans. S'en est suivi le 10 octobre la proclamation du droit de la région catalane par Carles Puigdemont, un droit de devenir indépendante. Quelques heures après, Mariano Rajoy donna un ultimatum finalement non respecté par la Catalogne, et ainsi la semaine dernière, vendredi 27 octobre, le Parlement catalan a proclamé l'indépendance de sa région. Le Sénat espagnol a voté dans la foulée l'article 155 mettant sous tutelle la Catalogne. Nous allons y revenir dans quelques instants. Enfin, et nous en parlions il y a quelques instants avec Franck, notre envoyé spécial sur place à Barcelone, le procureur de l'État espagnol a requis un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont. La juge Carmen Lamela a également décidé le placement en détention provisoire de 8 dirigeants séparatistes entendus le même jour à l'audience nationale. On assiste finalement, Christophe Barré, à un triste moment d'histoire. Comment voyez-vous cela, vous, de votre œil d'historien ?
Un inquiétant moment d'histoire, parce que d'un côté, on nous parle du régime espagnol qui, d'un seul coup, ne serait plus devenu démocratique, ne serait plus que le fauné du franquisme qui n'aurait jamais disparu. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, on parle de menaces, de sédition, de rébellion, donc qui sont des termes très anciens, qui correspondent aussi à des titres d'accusation qui sont rarement utilisés en Espagne même. Donc, bien sûr, tout est là pour nous inquiéter.
Que risquent Carles Puigdemont et les membres de son ancien gouvernement ?
Mais il risque de la prison. Après cela, Carles Puigdemont, pour l'instant, ne risque pas grand-chose, parce qu'il risque rien. Il ne risque rien, surtout avant les élections donc prévues, les élections régionales annoncées par Madrid finalement acceptées par tous pour le 21 décembre. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il veut faire, c'est un petit peu faire de ce procès un procès politique. Et puis, bien sûr, continuer à chercher l'internationalisation du conflit, comme le parti indépendantiste, on peut l'appeler comme ça, cherche à le faire depuis le début des événements.
Et alors, qu'est-ce
Donc,
oui, allez-y, allez-y.
oui. Non, pour l'instant, il ne risque pas grand-chose, il ne risque que d'un peu plus qu'un peu plus de renommée, ce qui finalement apporte de l'eau à son moulin.
Oui, c'est finalement un petit peu ce qu'il cherche. Il s'est exilé toute la semaine en
Oui,
Belgique, hein.
c'est un exilé volontaire, hein, faut pas l'oublier.
Alors, rappelons également ce qu'est véritablement l'article 155 voté par le Sénat espagnol vendredi dernier. Que stipule cet article réellement?
Alors, il stipule réellement que le gouvernement de Madrid peut dicter à une autonomie des mesures qui lui permettent de rester dans la légalité et de rester donc dans l'unité de l'Espagne, dans l'unité espagnole. Après, bien sûr, là aussi, c'est un article qui peut donner lieu à un combat judiciaire parce que est-ce que justement la mise en prison de dirigeants régionaux est vraiment prévue par cet article? Ça peut rester, ça peut rester sujet à discussion. L'immunité parlementaire ne peut pas être est protégée, bien sûr, par la Constitution espagnole, c'est l'article 71 qui le dit. Donc, bien sûr, il y a des bataillons d'avocats qui ont déjà fait du bon travail, hein, dans le camp indépendantiste, qui là vont encore trouver du miel et trouver à faire leur miel et peut-être encore à avancer leur cause.
Et alors justement, est-ce que certaines institutions catalanes, on pense évidemment aux Mossos, hein, la police catalane, ce genre d'institution ne risque-t-elle pas de se rebeller?
Alors c'est vrai qu'on peut risquer, on peut craindre une politisation des administrations. Puigdemont à Bruxelles, on ne sait plus, je veux dire Madrid, toute l'Europe, toutes les grandes villes européennes sont le cadre de ce drame qui se joue. Depuis Bruxelles, il y a quelques jours, Monsieur Puigdemont a donc a, pardon, j'ai oublié votre question. Nous parlions de
Alors, c'était finalement de dire, voilà, les Mossos des
Oui,
institutions
pardon,
catalanes
il
ont
y a,
pris, voilà, risquent-elles de se rebeller?
voilà, il y a donc politisation. Il a appelé, voilà, depuis Bruxelles, Monsieur Puigdemont a appelé à une résistance imaginative. Et c'est vrai qu'il compte beaucoup sur pas de la désobéissance civile, on a entendu, ou bien sur des actes de la part des fonctionnaires qui bien sûr pourraient traîner les pieds, pourraient ne pas obéir facilement aux ordres venus de Madrid. L'administration, hein, centrale, elle est peu influente en Catalogne. Il n'y a que 10% à peine de la fonction publique qui est une fonction publique d'État en Catalogne. Donc, Monsieur Puigdemont peut penser peut-être être appuyé. De fait, il y a déjà un syndicat dans l'administration de la culture, du ministère de la Culture catalan, un autre dans le ministère de l'Éducation catalan, qui a déclaré que le gouvernement de Monsieur Puigdemont était toujours le gouvernement légitime des Catalans. On compte beaucoup, effectivement, dans les rangs indépendantistes, sur l'inertie d'une administration finalement fidèle à Puigdemont pour que la mise en application de l'article 155 tombe à l'eau.
On imagine, on imagine. Alors, 21 décembre, Christophe Barré, c'est la date qu'a choisi Mariano Rajoy pour convoquer des élections générales. Un jeudi au lieu d'un dimanche, comme c'est l'habitude, et à 3 jours de Noël, on cherche peut-être ici un symbole?
Ça, non, enfin, le symbole, c'est que c'est simplement le lendemain du jour qui aurait pu être choisi par Carles Puigdemont la semaine dernière s'il avait finalement opté pour ne pas proclamer l'indépendance, ne pas demander au Parlement de proclamer l'indépendance, mais plutôt pour organiser des élections. Pendant quelques heures, on a tous cru ça. Simplement, non, ce sont des raisons tout simplement de calendrier, des raisons juridiques qui font que la date, justement, en cas de dissolution, ne pouvait pas tomber à un autre jour que ce jeudi.
Carles Puigdemont, vous le soulignez tout à l'heure, a déclaré qu'il reconnaîtra ces élections. Y aura-t-il, selon vous, une participation élevée lors de ce scrutin?
On peut imaginer que la participation sera très élevée, mais ce qui est intéressant, c'est que bien, les sondages, contrairement à ce que les unionistes s'imaginaient, là, sont en train de tourner et de donner peut-être la victoire aux indépendantistes. Donc on retournerait alors à la case départ, ce qui vraiment rendrait le conflit très, très, très présent et présent pour de longs mois, voire de longues années en Espagne.
Tout à fait. Et puis, il y a également la question de l'Union européenne. Nous nous étions eus il y a un mois de cela. Nous avions souligné ensemble hein, l'incapacité européenne à s'unir face à une telle situation. Ce référendum marque-t-il une défaite de l'idée européenne?
Alors, je ne sais pas, peut-être que pour moi, c'est un peu quand même aussi c'est un peu la dernière chance aussi de l'Union européenne. Quelque chose qu'on n'a pas relevé, c'est que dans le dernier discours, donc depuis le monde de samedi dernier, il y a eu à nouveau la reprise des mots de Donald Tusk, le président de l'Eurogroupe, qui avait dit juste avant, donc les derniers événements que nous allons commenter ensemble, qu'il y avait, il fallait privilégier toujours la force des arguments à l'argument de la force. Alors c'était curieux parce que cette intervention était très courte, elle était dans un contexte très particulier, celui donc du risque d'interpellation, d'emprisonnement des dirigeants. Pour que Monsieur Puigdemont cite encore à nouveau un dirigeant européen, je me dis que peut-être il y a des discussions qui ont pu commencer, dont nous ne saurions rien, qui là pourraient marquer peut-être un petit peu le retour de l'Union européenne au cœur de la politique, mais on peut bien sûr encore en douter à cette heure. L'Europe, il est vrai, avait toujours joué les régions contre les États en Europe. Aujourd'hui, c'est un peu un revirement qu'elle doit négocier. Peut-être que ça va la contraindre à réfléchir à nouveau et peut-être à s'impliquer dans ce conflit. On va le voir.
Ouais, une dangereuse escalade politique en tout cas, et peut-être que le fait que Carles Puigdemont se soit rendu en Belgique n'est peut-être pas anodin. Mais bon,
mais ça n'est pas anodin, non.
Voilà,
non, non.
Ce serait. Et quant aux
En tout cas, il
conséquences,
cherche une tribune.
oui, il cherche une tribune, tout
Il
à fait.
cherche une tribune.
Quant aux conséquences économiques de cette crise, la Bourse de Madrid a souffert énormément. La Catalogne serait-elle finalement plus riche en cessant de financer l'Espagne?
On ne sait pas, elle perdrait beaucoup de marchés aussi en Espagne.
Tout à
C'est
fait.
vrai que dans le, alors si les indépendantistes ont finalement montré beaucoup de talent dans la politisation un petit peu du processus judiciaire qui va à leur encontre, s'ils ne renoncent pas à marquer le terrain international, il est vrai qu'ils, pour le reste, c'est un échec. Ne pensez pas qu'il serait un petit peu lâché par le milieu économique. Il est dans la déclaration qui était adoptée par le Parlement, cette déclaration d'indépendance, il est fait référence à la création d'une banque centrale dont on attend toujours la pose de la première pierre, parce que rien ne s'est passé dans le paysage de Madrid. Là, par contre, la construction de l'État catalan a tourné très vite à la farce pour ce qui est du concret, de la logistique un petit peu de cet État. Faut rappeler que on n'a même pas décroché le drapeau espagnol du palais de la généralité. Enfin, il n'a pas cessé de flotter en haut de l'édifice. Il y a là un petit peu un amateurisme qui est un petit peu qui va mal avec un petit peu le professionnalisme un petit peu des avocats qui défendent la cause indépendantiste.
Eh oui, eh
Qui
oui. Et
contraste, ça contraste, c'est un grand contraste là.
Grand
Je ne
contraste
m'explique pas.
non expliqué. Et dans le même temps, les entreprises
Voilà.
telles que les banques espagnoles, Banco Sabadell, s'en vont et
Ouais,
trouvent
ouais.
d'autres sièges sociaux.
C'est évident. C'est évident.
Merci beaucoup, Christophe Barret, d'avoir été une nouvelle fois l'invité de C'est l'Info pour analyser cette situation. Voilà, nous nous étions eus il y a un mois et on voit que de semaine en semaine, finalement, la situation évolue. En tout cas, la date du 21 décembre sera une date cruciale pour l'avenir de la
Oui,
Catalogne
oui.
et de l'unité de l'Espagne également.
Ouais, c'est le grand prochain rendez-vous.
Eh bien,
alors au 21 peut-être
nous aurons l'occasion, en
ou
effet,
avant.
d'en reparler. Merci beaucoup, Christophe Barret, et à très bientôt sur C'est l'Info.
Merci, au revoir.
C'est l'info, l'invité de la semaine.
Nous recevons cette semaine François Beaugon. Bonjour.
Bonjour.
Au service international du journal Le Monde, vous publiez le 4 octobre dernier dans la tête de Xi Jinping chez Actes Sud. Xi Jinping a donc obtenu sans surprise la semaine dernière un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Parti communiste chinois. Il est donc assuré d'obtenir un nouveau mandat à la tête de l'État en mars prochain. Et surtout, le nom de Xi Jinping a été inscrit dans la charte du Parti communiste chinois. Un honneur réservé jusqu'ici à Mao, fondateur du régime, et à Deng Xiaoping, grand artisan des réformes économiques. Le comité central, sorte de parlement du Parti communiste, l'a élu secrétaire général générale aux côtés des 6 autres membres permanents du bureau. Dans ce congrès, tout semblait finalement réglé d'avance, hein.
Ah bah c'est généralement tout est joué d'avance avant même l'ouverture du congrès, d'où tout un certain nombre de tractations. Après, les observateurs étrangers ont beaucoup de mal à savoir ce qui se passe parce qu'il y a une grande opacité autour des dirigeants chinois. Mais le fait, par exemple, que Xi Jinping ait un nouveau mandat de 5 ans, par exemple, ne posait aucun problème. Les questions éventuelles qui étaient soulevées, c'était un certain nombre d'interrogations sur est-ce qu'il allait reconduire ou pas, par exemple, un proche comme Wang Qishan, qui était chargé de la lutte anticorruption et qui atteignait la limite d'âge, une limite d'âge qui avait été fixée par Deng Xiaoping pour éviter justement le culte de la personnalité pour faciliter une direction collective.
Alors, quelle est l'histoire de Xi Jinping? D'où vient-il réellement?
Alors, Xi Jinping, c'est d'abord un fils d'eux, c'est ce qu'on a un membre de la caste rouge, c'est-à-dire son père appartient au premier révolutionnaire chinois dans le nord-ouest du pays, en Shanxi. Le Shanxi a une histoire particulière avec le mouvement révolutionnaire chinois puisque c'est là où les communistes menés par Mao Tse-tung se sont retrouvés à l'issue de la longue marche au milieu des années 30. Donc c'était leur repère, leur berceau, et c'est là où ils ont opéré une conquête du pouvoir. Et donc c'est à la fois un fils d'eux, mais c'est aussi il se présente aussi comme un fils du peuple parce qu'il a la particularité d'être né dans les années 50. Il est né en 1953, donc il appartient à cette génération qu'on appelle les jeunes instruits. En chinois, on appelle ça les chétiens. C'est ces jeunes qui ont été envoyés par Mao à la campagne 2 ans après le début de la révolution culturelle.
Et alors ses débuts en politique, on les date au début des années 2000, hein, c'est ça?
Non, ses débuts en politique, il remonte beaucoup plus loin. C'est-à-dire que lui, en fait, lui reste à la campagne, donc dans ce village de Liangtiahe, donc dans le Shanxi, et il monte progressivement les marches. Il est envoyé en 75. Les universités sont officiellement fermées, mais en fait, des ouvriers, paysans peuvent être envoyés à l'université. Donc, il est envoyé à l'université Tsinghua, et puis progressivement, il va accomplir toutes les marches pour arriver au plus haut du pouvoir. Donc, il est parti du plus bas de l'échelon administratif pour arriver au plus haut.
Et alors aujourd'hui, fait-il le consensus parmi les cadres du PCC ou il existe des alternatives?
En tout cas, ce qu'on peut voir de l'extérieur, c'est qu'il y a aucune opposition. C'est qu'il est, il est arrivé à, en tout cas, à se débarrasser des rivaux potentiels au nom de la lutte anticorruption. Et donc, ce qu'il montre, c'est un parti communiste totalement uni derrière lui. Et cette capacité à inscrire son nom dans la charte du parti montre que son pouvoir est absolu d'une certaine manière. Après, il est difficile de dire dans un pays comme la Chine que le pays, le parti dans son entièreté derrière lui, parce que on n'a pas la capacité de le dire. J'imagine qu'il y a des oppositions, il y a des divergences, mais en tout cas pour l'instant elles sont tues.
Et alors François Bougon, c'était une question d'un auditeur qui nous l'a posée il y a quelques semaines de cela, puisque finalement les institutions chinoises sont assez complexes à comprendre. Les Chinois votent-ils à un moment dans le système chinois?
Pas du tout. Il y a eu des expériences de vote au niveau local,
oui.
Avec des candidats qui peuvent se présenter, mais en fait depuis quelques années, elle continue, mais en tout cas au sein des échelons supérieurs, c'est le parti qui détermine tout. Donc il y a aucun vote. Il y a un vote des membres du parti, mais c'est pas du tout un système démocratique comme certains pourraient le faire croire.
Alors, sous le mandat Xi Jinping, le pays a lancé une vaste lutte contre la corruption, touchant aussi bien les tigres, les hauts dirigeants, que les mouches, c'est-à-dire la base. La Chine a surtout connu une réduction sensible des libertés avec le contrôle renforcé d'Internet, des vastes coups de filet contre les militants des droits de l'homme en 2015, ou encore la mort en prison du dissident chinois Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix en 2010. Y a-t-il néanmoins un semblant de liberté d'expression en Chine et surtout des protestations qui peuvent se faire ?
Alors juste, on parle beaucoup des tigres et des mouches, mais aussi il faudrait rajouter dans la phraséologie les renards. C'est les cadres corrompus qui se sont enfuis à l'étranger et que les Chinois veulent absolument récupérer. Ça, c'est un élément important de la lutte anticorruption aujourd'hui.
D'accord.
Est-ce qu'il y a des éléments de liberté? Alors après, il y a des éléments de liberté dans la sphère privée. Ça, c'est évident. Ça, c'est pas du tout un système totalitaire où le régime contrôlerait les esprits comme il l'a fait sous la Révolution culturelle. C'est une société beaucoup plus libre, développée qu'à cette époque. Après, dans la sphère publique, non, il n'y a plus du tout d'espace de liberté. Ce qu'on a vu sous le premier mandat de Xi Jinping, c'est un serrement des espaces de liberté, c'est une répression de la société civile. C'est passé notamment par les avocats, par exemple, ou les journalistes.
Et alors à l'avenir, est-ce qu'on s'attend à une censure encore un peu plus sévère de l'Internet? On le sait, hein, Google, YouTube, des sites tels quels sont remplacés par des équivalents chinois dans le pays.
Ah, plus sévère, je ne sais pas. Pour certains sinologues, il y a des phases de 10 ans de resserrement, après un peu de desserrement. Là, on assiste à une phase de resserrement avec la volonté de contrôler notamment non seulement l'internet, mais je dirais les réseaux sociaux. Contrôler les réseaux sociaux comme le régime contrôle les médias officiels, c'est-à-dire d'instaurer à la fois un système de censure, mais surtout ce qui est plus important, d'autocensure.
En matière d'économie, à présent, François Bougon, le président chinois doit affronter d'immenses défis dans les 5 années à venir. Le premier d'entre eux, relancer l'économie du pays, qui tourne quand même au ralenti ces dernières années. 6,7% de croissance en 2016, on était à 10,6% en 2010, c'est des chiffres de la Banque mondiale. Quels sont les remèdes proposés par Xi Jinping pour refaire partir le modèle chinois?
Alors après, sur les chiffres, faire attention, parce qu'il y a une volonté quand même de ne plus être dans une croissance quantitative avec une croissance à 2 chiffres. Donc là, sur les croissances à 6 ou 7%, si elles sont plus qualitatives, ça ne pose pas de problème. La difficulté à l'heure actuelle pour l'économie chinoise et pour Xi Jinping, c'est de transformer un système, un modèle hérité de Deng Xiaoping, ce modèle qu'on connaît, hein, qui a fait la richesse de la Chine, c'est-à-dire basé à la fois sur les exportations et puis les bas salaires. Et aujourd'hui, toute la question est de pouvoir orienter cette économie sur à la fois plus de consommation, moins de secteurs à bas coût, de secteurs à basse valeur ajoutée pour monter en gamme. Donc voilà, ça c'est tout l'enjeu de Xi Jinping, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, cette espèce de volonté de passer. On est en pleine transition en fait.
Ouais, fini l'atelier du monde chinois, on passe maintenant vers plus de haut de gamme. Hein.
Exactement. En fait, Xi Jinping, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe, c'est qu'il est à la fois sur la volonté d'imposer un nouveau modèle économique, ce qu'il appelle une nouvelle ère, et puis aussi un nouveau modèle politique. Donc, c'est une Chine puissance et qui aura la capacité de développer des secteurs de haute technologie, des champions nationaux, d'où la volonté, par exemple, de soutenir des entreprises comme Alibaba, Tencent, mais aussi d'aller sur des secteurs comme l'intelligence artificielle, les voitures électriques.
Donc on le voit, Xi Jinping finalement a promis de libéraliser davantage cette économie, hein, en voulant traiter équitablement les entreprises étrangères sur le marché chinois. Mais toutefois, hein, l'Union européenne et les États-Unis accusent régulièrement Pékin de favoritisme envers ses champions nationaux et surtout de protectionnisme, ce qui multiplie les enquêtes commerciales à son encontre.
Oui, il n'y a pas de volonté, alors il faut faire attention avec Xi Jinping, en tout cas sur ce discours de la globalisation, de l'ouverture économique, il y a à la fois les déclarations et puis il y a les actes, hein, dans les actes, et c'est ce que relèvent de plus en plus les Américains et les Européens, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture et qu'il n'y a pas d'accès équitable au marché chinois, notamment sur les commandes publiques. Donc ce à quoi on assiste, et en fait je pense que c'est aussi la conséquence d'un certain nombre de mouvements politiques populistes, ou l'émergence de Trump en Europe ou de l'extrême droite, c'est de la part à la fois des Américains et des Européens une volonté de demander aux Chinois plus de comptes, et puis notamment de, en ce qui concerne les Européens, de relancer des politiques anti-dumping.
Alors, Xi a beau avoir affirmé lutter contre les inégalités sociales, la Chine reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Quelles sont les grandes réformes annoncées par Xi Jinping pour lutter contre ces inégalités et puis aussi pour favoriser, on le sait, elles sont très nombreuses en Chine, les classes moyennes?
Bah, il n'y a pas de, y a, les, alors il y a un discours général. Hein, si vous avez écouté le discours du premier jour du congrès du 18 octobre, il y a une feuille de route, c'est-à-dire en deux étapes. D'abord arriver à une société de moyenne aisance. C'est en 2000, 2021, 2035. Alors cette société de moyenne aisance, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire c'est une société, c'est un concept emprunté au confucianisme, c'est une société où tout le monde se sent bien, où donc les inégalités sont moins fortes. Et puis après, en 2049-2050, arriver à une société puissante, alors ce qu'il appelle une civilisation démocratique, harmonieuse, socialiste, avec une belle civilisation. Et après, dans les détails, on n'a pas, il y a un certain nombre de politiques qui ont été menées depuis certaines années. La lutte contre les inégalités, elle vient pas de Xi Jinping, elle remonte à l'époque de Hu Jintao, cette époque où on pense qu'il faut une croissance beaucoup plus vertueuse et qui lutte aussi contre les inégalités. Donc ça c'est un leitmotiv qui ne vient pas de Xi Jinping, qui l'a repris de Hu Jintao. Mais dans les politiques concrètes, il faudrait regarder. Il y a des par exemple la question d'une sécurité sociale. La mise en place d'une sécurité sociale à l'heure actuelle, elle est très fragmentée. Il y a des expérimentations locales. Donc toute la question est de savoir comment la Chine va pouvoir mettre en place, par exemple, un système de sécurité sociale qui permettra aux habitants d'utiliser leur épargne, non pas pour leurs vieux jours, mais pour consommer. Donc voilà, il y a un certain nombre de politiques et on attend la mise en place concrète, par exemple, sur cette sécurité sociale.
Et puis, le président chinois a également lancé d'ambitieux programmes dans l'éolien, les énergies solaires, le développement des voitures électriques. Là encore, le chantier s'annonce colossal.
Bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté. Alors après, il y a un élément politique qui explique aussi cette politique économique, c'est que l'environnement, la pollution atmosphérique et devient un élément, un enjeu politique, parce que les classes moyennes, les classes urbaines ont de plus en plus de mal à supporter cet état de fait. Donc ça a été placé au premier rang des priorités, en fait. Et après, ça rejoint forcément l'ambition chinoise, l'ambition de Xi Jinping de constituer, dans des secteurs d'avenir, des géants nationaux, de se poser comme étant un des premiers pays en matière environnementale. Donc à la fois dans la politique d'urbanisation, il y a un immense projet porté par Xi Jinping pour créer une ville nouvelle qui réunirait à la fois Pékin, Tianjin et puis toute cette partie-là. Et puis d'autre part, oui, sur la voiture électrique, avec la volonté de faire en sorte que les entreprises chinoises deviennent enfin des grandes entreprises automobiles. À l'heure actuelle, elles sont surtout des alliées des entreprises automobiles occidentales. Donc là, c'est la volonté de leur faire sauter un palier technologique grâce à cette nouvelle technologie.
Parlons à présent un petit peu de politique étrangère. On le sait, Xi Jinping et la Chine exercent une influence non négligeable dans la zone et en particulier envers la Corée du Nord, qu'elle a souvent été accusée de financer. Quelle est la position chinoise, si on peut en tirer une position, vis-à-vis de ce dossier nord-coréen?
Ah bah la position chinoise, elle est simple à l'heure actuelle. Elle consiste à dire que, et ça a toujours été la même position depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, depuis le début des années 2000, c'est de dire que la solution de la crise nucléaire nord-coréenne passera par le dialogue. Donc voilà, quitte à employer de temps à autre, et dans ces cas-là, ils se rangent derrière les Occidentaux, à la politique des sanctions pour ramener Pyongyang à la table des négociations. Après, il y a le double, ce que Pékin appelle le double gel. Donc, à la fois, le gel du programme nucléaire nord-coréen et puis d'autre part le gel des ce qu'ils appellent les provocations américaines et sud-coréennes, c'est par exemple l'arrêt des manœuvres militaires sur en Corée du Sud de la part des Américains. Donc voilà, ça c'est à la fois un appel à la Corée du Nord mais aussi aux États-Unis, au Japon et à la Corée du Sud. Donc la position de Pékin est constante là-dessus, c'est de toute façon la crise nord-coréenne passera avant tout par un dialogue et un retour à ce que éventuellement une structure qui avait été mise en place qui s'appelait le dialogue à 6 qui était hébergée par Pékin et qui régulièrement accueillait les différentes délégations des 6 pays, donc à la fois les deux Corées, la Russie, le Japon, les États-Unis. Et autour d'une table en fait. Donc voilà, ça c'est. Après, il y a la complexité, c'est que désormais la Corée du Nord a la capacité de s'est dotée d'une arme nucléaire. Et donc, je ne vois pas comment Pyongyang accepterait de revenir à une table du dialogue pour se dénucléariser. Donc là, c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a une certaine non pas naïveté, mais la croyance aux États-Unis que la clé de la résolution de la crise passe par Pékin, alors qu'en fait Pékin ne détient pas n'a pas un levier suffisant sur la Corée du Nord.
Et alors à échelle régionale, la Chine souhaite tout de même s'imposer comme le leader de la région. Elle s'oppose notamment à l'entrée dans l'ASEAN de l'Inde pour contrer l'un de ses grands rivaux historiques, le Japon.
De toute façon, la Chine, elle se pose avant tout comme une puissance régionale asiatique. Donc, en tout cas, sur son périmètre régional et en Asie-Pacifique, elle vise clairement à ce que les États-Unis soient pas présents. Donc, et elle considère le Japon comme étant l'allié principal des États-Unis dans cette région. Et, après, sur l'Inde, c'est une rivalité de grandes puissances asiatiques avec des différents territoriaux, et ça passe notamment par cette question par exemple de l'ASEAN. Mais l'ASEAN aujourd'hui, on a vu progressivement Pékin consacrer énormément de moyens à l'ASEAN, mettre beaucoup de diplomates, et aujourd'hui en fait Pékin a réussi à de fait contrôler l'ASEAN en jouant par exemple sur Cambodge. Donc le Cambodge est un acteur clé pour le contrôle de l'ASEAN de la part de Pékin.
Et alors avec la France, on a vu le président Emmanuel Macron inviter et ménager le président américain Donald Trump. Qu'en est-il des relations avec son homologue chinois ? On le sait, les relations sino-françaises sont surtout d'ordre économique aujourd'hui.
Oui, après il y a un depuis Jacques Chirac, il y a ce qu'on appelle un partenariat stratégique global. Et donc je crois que c'est une relation qui est à la fois marquée par une forte relation économique, mais aussi du fait que la France se trouve au Conseil permanent des Nations Unies. C'est aussi un partenaire important sur les questions globales. Je crois qu'il y a de la part de la France, il y a à la fois une envie d'attirer, par exemple, des investisseurs chinois. Et puis de privilégier un dialogue sur des dossiers d'importance comme par exemple la crise nord-coréenne ou en Afrique ou au Proche-Orient.
Alors l'Afrique justement, hein, pour terminer cette entrevue, les Chinois sont de plus en plus présents en Afrique, investissent les terres, organisent des sommets. Que cherche réellement la Chine en investissant autant en Afrique, damer le pion des États-Unis, de l'Europe ?
Non, je crois pas. Je pense que il y a deux choses. Je pense qu'il y a une présence de plus en plus importante en Afrique, mais qui s'explique avant tout par une recherche de matières premières. Et puis après, la présence chinoise, elle se fait aussi d'un point de vue stratégique avec l'ouverture d'une base à Djibouti. Est-ce qu'il y a la volonté de remplacer les Chinois, les Américains et les Français ? Je crois pas. Je pense qu'il y a une volonté d'être présent. Et puis il y a de plus en plus de Chinois. Je crois qu'un chiffre comme 2 millions de ressortissants chinois était avancé. Donc en fait, de fait, la Chine doit se préoccuper de la sécurité de ses ressortissants. On l'a vu au moment de la crise libyenne, ils ont envoyé des bateaux pour évacuer leurs ressortissants. Donc maintenant, de fait, ils sont obligés d'être présents en Afrique parce que pour des questions de sécurité pour leurs ressortissants.
Merci beaucoup François Bougon d'avoir accepté notre invitation au service international du journal Le Monde. Et puis je vous invite vivement à lire son dernier livre, Dans la tête de Xi Jinping, chez Actes Sud. Merci beaucoup.
Merci.
Controverse.
Controverse avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey.
Bonjour.
Vous nous parlez de finances aujourd'hui.
Oui, je vais parler des hausses de taux de mercredi au Canada et de jeudi au Royaume-Uni.
Alors que s'est-il passé ?
Mercredi, le Canada a relevé pour la seconde fois ses taux directeurs. Pour la première fois depuis l'été 2007, la Banque d'Angleterre, BOE, a décidé d'augmenter son taux directeur de 25 points de base, le portant de 0,25% à 0,50. La dernière hausse était pour aller de 5,25 à 5,50.
Que sont les taux directeurs ?
Ils sont au nombre de 3. Ce sont des taux courts qui vont se répercuter sur ce qu'on appelle la courbe des taux, qui va du JJ, jour le jour, l'argent qu'on emprunte tous les jours, aux 3 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans et même 30 ans aux US. Ils sont au nombre de 3. Le taux de rémunération des dépôts d'argent et le taux d'intérêt au jour le jour, ou JJ, fixé par la Banque centrale, auquel sont rémunérés les excédents de liquidité des banques et institutions financières placées auprès de la Banque centrale. Le taux de refinancement, taux refi ou de repo aux US, permet de réguler l'activité économique par l'apport ou le retrait de liquidité. Le taux d'escompte aux États-Unis ou le taux du prêt marginal en Europe est utilisé sur le marché monétaire pour les prêts à très court terme, je dirais de 25 heures à une semaine. Le taux directeur de la Banque centrale européenne et des autres banques centrales est le taux de refinancement minimum. C'est le principal outil dont disposent les banques centrales pour influer sur l'octroi de crédit et moduler l'inflation.
Alors pourquoi le Canada et maintenant le Royaume-Uni les relèvent-ils ?
Au Canada, Statistique Canada a révélé que la croissance du premier trimestre avait été plus solide que prévu et avait dépassé les attentes de la Banque centrale. Le produit intérieur brut, PIB, du pays, a bondi de 4,5% au deuxième trimestre, une très grosse hausse. Il s'agit de la plus forte croissance du PIB, produit intérieur brut, en 6 ans au Canada.
Alors, pour rappeler aux auditeurs, qu'est-ce que le PIB, produit intérieur brut ?
Le PIB mesure le niveau de production d'un pays. Il est défini comme la valeur totale de la production interne de biens et services dans un pays donné au cours d'une année donnée par les agents résidant à l'intérieur du territoire national.
Y a-t-il d'autres raisons à tout cela, Mickey Monstre ?
Les dépenses de consommation demeurent robustes, étant soutenues par la vive expansion continue de l'emploi et du revenu, note aussi la Banque du Canada par voie de communiqué. De plus, les investissements des entreprises et des exportations ont affiché une vigueur plus généralisée, dit encore la banque.
Et au Royaume-Uni, que s'est-il passé ?
Au Royaume-Uni, l'économie a progressé bien mieux que les prévisions post-référendum catastrophique manipulé de la Banque d'Angleterre et le taux de chômage est très bas. En revanche, et c'est bien naturel, l'inflation a augmenté au-dessus de la barre symbolique des 3% en octobre. Néanmoins, bien que la croissance soit plus forte que prévu, elle est quand même historiquement faible au regard des périodes de croissance qu'on a pu observer durant les 30 dernières années.
Alors, quelles seront les conséquences pour les divers acteurs qui composent notre économie ?
Alors, les divers acteurs économiques, on pourra les diviser en 4 catégories. Les individus, les institutions financières, les entreprises et les États. Pour les individus, les emprunteurs vont voir l'augmentation de leur traite s'ils sont en taux variable. Et les utilisateurs de cartes de crédit vont devoir vite réduire leur endettement s'ils ne veulent pas payer excessivement. Pour certains déjà très endettés, grosso modo 5% des ménages, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques avec des taux d'endettement dangereux de l'ordre de 40% de leurs revenus. Les épargnants vont avoir une meilleure rémunération de leurs comptes. Pour les institutions financières, ils ne vont plus pouvoir emprunter à très bas prix pour se refinancer. Donc, il risque d'y avoir beaucoup de licenciements dans ce genre d'activité. Pour les entreprises, leurs dettes vont augmenter. Les M&A vont être plus difficiles à cause de l'argent plus cher. Les entreprises qui ont du cash vont dominer encore plus les marchés. Donc, le marché va être encore plus dominé par les GAFA et les BATX, et notamment Amazon et Alibaba sur le secteur des ventes de détail. Pour les États, leurs dettes vont augmenter si les revenus fiscaux n'augmentent pas.
Alors ainsi, la hausse des taux va-t-elle se poursuivre ?
Oui, à des rythmes très peu élevés pour ne surtout pas tuer la croissance fragile de ces pays. On parle d'objectifs de 3 à 5% d'ici 4 ans pour les taux canadiens. Pour le Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre surveillera de très près l'inflation et procédera à une nouvelle hausse si celle-ci est au-dessus de 3%. Néanmoins, on s'attend à des hausses de 25 points de base tous les 6 mois pour arriver à 2% en 2021.
Et dans les autres pays industrialisés ?
Ah, vous avez envie qu'on parle des autres pays, d'autres pays industrialisés, avec grand plaisir. Dans les autres pays industrialisés, il y aura certainement des hausses de taux aux USA, en Allemagne, en France. La grosse et inquiétante inconnue reste le Japon et les pays du sud de l'Europe, Italie, Espagne, Portugal et Grèce. En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Mickey Monstre, à la semaine prochaine pour de nouveaux décryptages et de nouvelles actualités.
Ici, Londres.
Il est à présent temps d'appeler notre correspondant à Londres, Alexander Seale, pour Ici Londres. Alexander, vous nous parlez de la Guy Fawkes Night, mais alors qu'est-ce que la Guy Fawkes Night, justement ?
Bonjour Martin. Chaque 5 novembre, ici en Angleterre, une sorte de Daesh protestant est fêté. Nous associons aujourd'hui Daesh avec les tragiques attentats et d'horribles décapitations. Imaginez que dans 4 siècles, c'est tel guillotinement soit le motif de faire la fête entre amis et voisins et de voir des feux d'artifice. Ça semble inimaginable et choquant. Néanmoins, c'est vrai à propos de Guy Fawkes Night. Elle est également nommée Bonfire Night, la nuit des feux de joie ou de feux d'artifice, ou encore Plot Night, la nuit de la conspiration. C'est une fête encore de nos jours, célébrée le 5 novembre, initialement au Royaume-Uni. Cette fête commémore l'échec de la conspiration des poudres, le complot d'un groupe de catholiques sous la direction de Guy Fawkes, visant à faire exploser le 5 novembre 1605, lors de la présence du roi protestant Jacques Ier, le Parlement de Westminster, avec 36 barils de poudre. Partout, on voit des feux d'artifice et on construit des feux de joie dans les jardins. Une effigie de Guy Fawkes est érigée au-dessus des bûchers aujourd'hui. Au cours des jours qui précèdent le 5 novembre, la tradition veut que les enfants promènent leurs poupées de Guy Fawkes dans les rues et demandent aux passants « a penny for the guy ». Cet argent est supposé être une contribution au feu d'artifice. Remember, remember the 5th of November. Souvenez-vous, souvenez-vous le 5 novembre. Cette comptine très populaire est chantée le soir du 5 novembre pour célébrer l'échec de la destruction de la Chambre des Lords par Guy Fawkes. Comme nous pouvons le constater, cette fête comporte initialement une portée politique et religieuse très marquée. Elle est le vestige d'un temps où les tensions politiques et religieuses étaient et sont aujourd'hui très fortes. Mais aujourd'hui, c'est la portée festive qui est retenue. Les plus petits aiment bien regarder les feux d'artifice. Donc, si vous êtes à Londres, le 5 novembre, n'hésitez pas à regarder les feux d'artifice.
Série de reportages à présent avec notre partenaire RFI pour clôturer cette 10e émission de C'est l'info. Et pour commencer, nous parlons de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 77 ans, alors que la France était occupée par les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Charles de Gaulle lançait un appel de résistance depuis Brazzaville, qu'il fit capitale de la France libre. Pour se remémorer l'histoire, Brazzaville a organisé jusqu'au 28 octobre une série d'événements, dont une conférence débat en présence de plusieurs personnalités qui estiment que la reconnaissance du rôle de Brazzaville n'est pas du tout la même.
Éclairée rien qu'avec des projecteurs, la salle Savonio de Brazza de l'Institut français du Congo a fait presque le plein. Officiels, enseignants, élèves, chercheurs et autres sont venus écouter les animateurs de la conférence De Gaulle et Brazzaville qui ont une histoire marquée par la reconquête de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Philibert Malonga est le deuxième adjoint au maire de Brazzaville.
Brazzaville a joué un grand rôle. C'était en quelque sorte la base opérationnelle du général de Gaulle pour reconquérir la France et avec le concours des alliés.
Patronné par le Premier ministre Clément Mouamba, cette conférence a connu notamment la participation des membres du groupe de liaison Europe-Afrique, au nombre desquels l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin. Tous ou presque ont reconnu que De Gaulle fut Brazzavillois de cœur et d'esprit. Pour Bertrand Cochéry, ambassadeur de France au Congo, sans Brazzaville, il aurait été presque impossible d'imaginer le sort de la France.
Il faut justement que la mémoire ne se perde pas de ce qui se fait ici. S'il n'y avait pas eu Brazzaville, le sort de la guerre n'aurait pas été le même. Et je dirais le sort de la France n'aurait pas été le même.
Le 77e anniversaire de la proclamation de Brazzaville, capitale de la France libre, valait la peine d'être célébré pour la mémoire collective. Mais de l'avis de l'universitaire Grégoire Lefouba, on n'a pas la même considération de l'histoire de Brazzaville selon qu'on est sur les berges du fleuve Congo ou sur les bords de la Seine.
Dans les manuels français scolaires, il n'y a pas une trace de cette partie de l'histoire qui relie fondamentalement la France au Congo pendant les périodes difficiles de guerre. S'il n'y a qu'une partie qui doit savoir ce que l'autre a fait, ça veut dire qu'il y a des déséquilibres dans ce rapport.
L'historien Théophile Obenga pense que le Congo doit aussi célébrer ces hommes qui ont marqué son histoire.
Quand les Français célèbrent, vous dites, bon, c'est la coopération bilatérale, vous célébrez aussi, vous faites vos anniversaires aussi. La mort de Makoko, par exemple, et l'eau. Bon, il a reçu un B de Brazza. Quel jour, quelle année, mais faites cette fête-là.
Ville chargée d'histoire, Brazzaville a totalisé 137 ans le 3 octobre dernier. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Et l'on reste à présent toujours et encore en Afrique. Au début du mois de septembre, les pouvoirs publics algériens ont commencé à arrêter des migrants subsahariens dans la région d'Alger. Les arrestations ont eu lieu dans la rue, dans les transports, dans des logements, mais aussi sur les chantiers. De nombreux migrants, des hommes, gagnent leur vie en travaillant sur les chantiers en construction. Sans protection sociale, ils sont évidemment vulnérables et les vagues d'arrestations les ont rendus encore plus précaires. Reportage à Alger de notre correspondante Leïla Berato.
Il y a des tours à perte de vue et beaucoup de poussière. Dans une cabane de tôle, des dizaines de migrants subsahariens font une pause pour déjeuner. Allongé sur un matelas, Mohamed Ali, 23 ans, guinéen, a une jambe dans le plâtre.
On a peur de policiers, pour peur de rapatriement, c'est pour cela. On a sauté, on a blessé, on a cassé. On nous a amené à l'hôpital. Il nous a donné là-bas ordonnance pour acheter des médicaments, mais notre boss il n'a pas accepté jusqu'à présent. On n'a pas de moyens encore. Même bon manger, il n'y en a pas. Même médicaments, il n'y en a pas.
À côté de lui, un autre ouvrier guinéen a lui aussi la jambe fracturée.
Les médecins nous ont demandé de payer des médicaments. Ils nous ont dit un comprimé à 1000 dinars et il nous fallait 15 comprimés pour un mois. Mais vraiment, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, parce que mon patron ne s'occupe pas de moi. Je me prends en charge moi-même et je n'ai pas d'argent, ni rien. Les médicaments n'ont pas encore été achetés. Voilà l'état dans lequel nous sommes.
Ils ont une incapacité de travail de 90 jours. 90 jours pendant lesquels ils ne gagneront pas un dinar. Pourquoi prendre un tel risque ? Jérôme, un ouvrier béninois, comprend parfaitement leur geste.
Avec la peur que de la police, on va le renvoyer. Peut-être qu'il n'a même pas encore économisé. Peut-être qu'il y a encore son salaire au niveau de l'office. Là, dans cette peur, dès qu'il est rapatrié, parce que s'il est rapatrié, son salaire est resté là-bas. Peut-être de 2 mois ou d'un mois. Il a peur dès qu'il est rapatrié. Parce que quand tu es rapatrié dans cet état, tu es toi le perdant.
Malgré les arrestations, malgré la précarité de leur statut, ces ouvriers affirment qu'ils veulent rester en Algérie. Daouda, ivoirien, insiste sur les avantages.
Le salaire qu'on gagne ici, c'est le salaire des hauts cadres chez nous. Mais chez nous, tu ne peux pas avoir ça dans le manœuvrage ou bien même étant un technicien, tu ne peux pas l'avoir. C'est pour cela qu'on est ici. S'ils nous disent le séjour coûte tant par telle somme par an, nous on le paye parce qu'on veut rester ici.
Au mois de juillet, Alger avait annoncé qu'elle travaillait sur un système de régularisation partielle, car le pays manquait de main-d'œuvre. Mais depuis, des centaines d'ouvriers migrants ont été expulsés au Niger. Leïla Berato, Alger RFI.
Allez, pour terminer, quelque chose de plus léger, l'e-sport. Le Paris Games Week s'est ouvert mercredi à Paris. Il s'agit d'un des plus grands salons de jeux vidéo au monde. Près de 330 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions Porte de Versailles jusqu'au 5 novembre. Et cette année, focus sur le phénomène e-sport ou sport électronique. Des joueurs professionnels de jeux vidéo s'affrontent en direct et comme dans le sport, des fans de spectateurs assistent aux rencontres. En France, ils sont près de 5 millions à suivre les compétitions d'e-sport régulièrement et plus de 100 millions dans le monde. Et figurez-vous que ce n'est qu'un début, le secteur attire de plus en plus le public et les sponsors se structurent. Il se pourrait que d'ici 2024, l'e-sport soit reconnu comme une discipline des Jeux Olympiques. Reportage de Jeanne Richard.
Sur une estrade derrière leurs ordinateurs, les joueurs sont déjà en place, prêts à s'affronter dans un jeu de tir. Les images de leurs écrans sont retransmises en géant au-dessus de leur tête et pour assister à la compétition, une foule de supporters.
Je suis venu voir une compétition d'un jeu auquel je joue régulièrement et regarder des meilleurs joueurs, ça va me permettre peut-être de m'améliorer moi-même et pour plus tard peut-être jouer à leur place.
Et t'aimerais un jour devenir joueur professionnel ?
Ça serait un rêve, ouais.
Tension, stratégie, rapidité, le public partage vite l'adrénaline des joueurs.
Ça y est, c'est parti.
Côté scène, les joueurs sont loin de l'image du geek coupé de la société et affalé dans un canapé. Ils suivent un entraînement quotidien, ont une hygiène de vie stricte, des coachs et des primes qui se comptent parfois en centaines de milliers d'euros. Simon Johan, plus connu sous le pseudo Manica dans le milieu, joue depuis tout petit à FIFA, le célèbre jeu de foot. Il y a 10 ans, il a commencé à jouer en réseau. Aujourd'hui, à 24 ans, il fait partie de l'équipe officielle du PSG.
J'ai gravi les échelons, commencer par faire des tournois tout seul. Et puis grâce à mes dernières performances dans les différents tournois internationaux, j'ai terminé dans les 3 meilleurs joueurs au monde. C'est comme ça que j'ai réussi à atteindre le PSG. Au plus haut niveau, c'est vraiment le mental qui prime pour gagner une compétition. J'ai un coach qui est souvent là pour me remonter le moral quand ça ne va pas ou me dire quelques petites choses qui peuvent m'aider. Mais voilà, c'est juste surtout l'aspect mental et psychologique qui est important.
Les similitudes avec le sport de haut niveau sont donc nombreuses, même s'il n'y a pas de dépenses physiques. Et le Comité international olympique s'intéresse de plus en plus au phénomène, jusqu'à imaginer les compétitions de jeux vidéo intégrées les Jeux olympiques. Emmanuel Martin, secrétaire général de l'association France e-sport et délégué général du CEL, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo.
La vraie question pour nous, c'est est-ce qu'on a envie que l'e-sport soit considéré comme un sport ? Est-ce que l'e-sport doit se développer dans le modèle du sport traditionnel, rejoindre ces grands événements-là ? Ou est-ce qu'au plutôt l'e-sport a sa propre identité, doit se développer selon une voie propre ? C'est un débat qu'il faut avoir au sein des acteurs du e-sport.
Les championnats de jeux vidéo sont suivis régulièrement par près de 5 millions de personnes en France et plus de 100 millions dans le monde. Des jeunes entre 15 et 25 ans surtout, des cibles qui intéressent donc le comité des Jeux Olympiques, mais aussi de plus en plus les grandes marques et les sponsors.
C'est l'info, votre double page info du week-end. Martha Arnaud.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons bien évidemment sur internet, sur le www.c-l'info.fr, en podcast sur iTunes ainsi que sur nos radios partenaires. Et puis bien évidemment sur le site de C'est l'info, vous retrouvez chaque jour l'ensemble de l'actualité. Belle semaine à tous et à très vite sur C'est l'info.